Alors, Béatrice, on dit du rouge que c'est la reine des couleurs, mais pourquoi ?
Oui, rouge, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la première couleur à avoir été utilisée par l'homme, et puis c'est la première que les enfants perçoivent. Et même par toute petite touche, elle crève toujours les yeux. Bizarrement, aussi, elle attise des émotions qui sont souvent contradictoires. On peut dire que le rouge est la couleur par excellence, parce qu'elle domine des origines jusqu'à l'époque romaine. Il y a 80 000 ans, les hommes de la préhistoire ont utilisé la terre rougie par le fer parce que les ocres, c'est-à-dire le rouge, le brun, le jaune et le noir, étaient les seules couleurs dont ils pouvaient disposer. Les premières peintures qu'il fait sont corporelles, puis l'homme préhistorique utilise ce rouge pour orner ses sépultures, et puis enfin, il peint les parois des grottes telles qu'on les connaît aujourd'hui. En fait, on peut dire que dans l'Antiquité méditerranéenne, jusqu'au début de l'époque romaine, teindre une étoffe, c'est lui donner une couleur rouge. C'est pour ça que parler de couleur rouge, c'est presque un pléonasme. Preuve en est que, dans plusieurs langues, le même mot désigne rouge et coloré. En latin, par exemple, coloratus et ruber sont synonymes. Et en russe, rouge se dit comme riche ou beau.
Mais n'est-ce pas le propre de chaque culture de magnifier la couleur la plus courante ? Fer, en anglais, signifie à la fois blond, beau et gentil.
Oui, effectivement. Mais en l'occurrence, le rouge, son importance a deux causes. La première, c'est que le système de représentation des sociétés anciennes, basé sur la couleur, sont organisés autour de trois pôles. Le rouge et ses deux contraires, le noir et le blanc, auxquels on ajoutera par la suite l'or, et ce jusqu'au Moyen-Âge. La deuxième raison, c'est que l'importance du rouge est liée à l'histoire des teintures, comme c'est toujours le cas pour chaque couleur du reste. En Occident, autour de la Méditerranée, on a d'abord eu le pourpre à base de murex. Je crois qu'on a eu du reste une belle exposition.
Oui, il y a 2 ans, à l'aquarium de La Rochelle, une exposition sur le murex et sur la couleur pourpre.
Voilà, donc on a vu que ce murex, c'est un petit escargot marin. Il est présent dans la Méditerranée et le pigment provient d'une minuscule glande branchiale. Donc son coût, évidemment, est prohibitif, ce qui fait du rouge le symbole du pouvoir et du prestige. Ça nous donne une couleur légèrement violacée et c'est la couleur cardinalis qu'on connaît. À Rome, la pourpre est l'emblème du pouvoir suprême. C'est celle des généraux, des nobles, des empereurs. Alors, ce sont les Phéniciens qui ont le secret de sa fabrication et ils en gardent le monopole pendant presque 2000 ans. À la fin du XIIe siècle, le pourpre devient par décret la couleur du Vatican et l'Église doit l'importer de Constantinople, qui est la seule capable de produire ce précieux colorant. Son secret de fabrication va disparaître avec la chute de l'Empire byzantin en 1453, mais elle est en passe d'être reconstituée aujourd'hui. Et puis vient la garance, qui en Orient va dominer jusqu'au XIIIe siècle. Son règne est long parce que, évidemment, il est plus facile de la cultiver, plus facile que de pêcher le murex. Et c'est une plante, une grande herbe dont les racines possèdent de belles propriétés tinctoriales. Elle résiste bien à l'eau, à l'air, à la lumière, parce qu'elle pénètre profondément dans les fibres textiles. Ce qui fait qu'on peut obtenir une gamme variée de rouges, vives et stables. Alors, ce sont seulement les teinturiers de l'Inde et de l'Empire ottoman qui sont capables de le faire, avec Andrinople et Smyrne comme principaux centres dans l'Antiquité. Et puis ensuite, on en produit en Flandre, en Alsace et en Avignon. En France, ce sera l'infanterie de ligne qui va porter le fameux pantalon de garance, d'où l'expression « empincé pour la garance », qui veut dire être attiré par le métier militaire. Bon, en fait, le rouge garance était très visible, c'était sans doute mieux adapté à la parade qu'au combat. Et aujourd'hui, avec le kaki, on est arrivé à l'extrême, cette couleur qui camoufle, on est passé d'un extrême à l'autre. Alors, lorsque le bleu va apparaître, les conflits d'intérêts, voyez, ils existent depuis toujours. Pour lutter contre cette nouvelle couleur, les marchands de garance vont utiliser tous les moyens. Et par exemple, en Allemagne, ils demandent au maître verrier de représenter le diable ou l'enfer en bleu pour qu'on ait peur de cette couleur bleue. Alors, quels sont les autres pigments rouges ? Bien sûr, il existe d'autres pigments. Les premières teintures de textiles en rouge sont faites au 4e millénaire avant Jésus-Christ, en Europe et au sixième en Asie et en Afrique, avec des colorants extraits de plantes, de mollusques ou de minéraux. Pour en citer quelques-uns, je parlerai de la cochenille, ce petit insecte parasite des plantes qui permet d'obtenir un rouge qui tire plus vers le violet, c'est le carmin. Et puis le kermès, c'est une variété de cochenille. Il faut parler aussi du cinabre qu'on connaît au moins de nom, qui donne le vermillon. C'est un sulfure rouge qui se forme dans les mines de mercure. Alors évidemment, il est très toxique et pourtant, il est utilisé en Chine dans les élixirs d'immortalité parce qu'on considérait qu'il contrôle les forces de vie. On peut évoquer aussi l'aulne, qu'on connaît bien pour son bois rouge. Alors les Inuits bouillaient justement la peau des animaux avec l'écorce du bois de l'aulne et en ajoutant de l'urine pour que les couleurs soient bien fixées. Voilà. On peut aussi évoquer peut-être le cartam, dont les teinturiers d'Orient utilisaient les fleurs orangées pour les étoffes des souverains de la Perse antique.
Mais alors le problème avec toutes ces matières naturelles, c'est qu'elles vivent, elles évoluent avec le temps et la lumière. Elles changent donc de nature. Exemple, les feuilles qui s'éclaircissent dans le soleil.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et c'est un des problèmes qui va se résoudre avec les progrès de la science, puisqu'on va supprimer ces facteurs de transformation. Mais il faudra attendre la fin du 19e avec la chimie qui met au point des colorants synthétiques. Ils permettront d'obtenir des teintes subtiles et de garantir une permanence au lavage comme à la lumière. C'est pourquoi les cultivateurs et les teinturiers seront ruinés par la découverte en 1869 de l'alizarine artificielle, le pigment de la garance. Son pouvoir tinctoriel est 100 fois plus fort que celui du colorant naturel, vous imaginez.
Alors, on parle du rouge, mais il y a plein de rouges. Feu, sang, soleil couchant, terre rouge, fruits rouges, grenade, vin, feu rouge, rubis, piment rouge, chaperon rouge, rouge à lèvres. Comment chacun d'entre eux va représenter un symbole différent, à votre avis ?
Oui, alors justement, c'est bien parce qu'il y a une multitude de rouges que les symboles sont différents. On l'a vu dans notre introduction à Vivre en couleurs, on a parlé du cercle chromatique qui représente toutes les couleurs, avec le rouge entre ses deux autres primaires, le jaune et le bleu. Si ce rouge se dirige vers le jaune, le rouge devient de plus en plus orangé, c'est-à-dire vermillon. S'il se dirige vers le bleu, le rouge devient plus violet et c'est le carmin. Alors il existe bien sûr une multitude de rouges et suivant sa nuance, il induit des ressentis très différents, voire même opposés. Sa symbolique est donc variable et très ambivalente. Mais parlons d'abord de la plus évidente, celle à laquelle on pense dès qu'on évoque le rouge, c'est le sang. Notre sang doit sa couleur puissamment rouge à l'hémoglobine, comme on le sait, qui est teintée par un oxyde de fer. Le sang assure le transport de l'oxygène, certes, mais aussi il nous dévoile. On rougit de honte ou de colère parce que nos émotions, en dilatant nos vaisseaux sanguins, font affluer le sang sous notre peau. Oui, mais là encore, de quel sang parle-t-on ? Voilà. Parlons d'abord du sang intérieur, celui qui est dans le corps. Il est rouge clair, c'est-à-dire vermillon. Là, c'est le bon rouge, masculin bien sûr, comme d'habitude. C'est la vie qui est dans le sang caché. Il est centrifuge, diurne, éclatant. Là, c'est la couleur de l'action forcément, de l'énergie, de la créativité, tonique. Il bouge, il semble proche, contrairement au bleu, qui semble plus loin. C'est une couleur dynamique, elle entraîne, elle encourage, elle provoque. Et voilà pourquoi on voit les drapeaux rouges, les affiches et beaucoup d'emballages publicitaires. Ce rouge incarne la fougue et l'ardeur de la jeunesse aussi. C'est une couleur ludique, on l'utilise beaucoup pour les jouets. Beaucoup de sucreries et de bonbons sont rouges. Et les vêtements pour les enfants et ce fameux chaperon rouge dont vous parliez. C'est aussi la couleur du luxe. Longtemps, très longtemps, un beau vêtement, un bel objet a été de couleur rouge. Au Moyen-Âge, s'habiller en rouge est réservé à l'aristocratie par certaines lois somptuaires. Par exemple, en Extrême-Orient, c'est la couleur des Rajas, les chefs hindous. C'est aussi, bien évidemment, la couleur de la fête, chacun le sait, et jusqu'au XIXe siècle, la plus belle robe de la femme, pour le mariage par exemple, est rouge. Aujourd'hui, les cadeaux, décors de fête comme Noël ou le mariage sont souvent rouges. C'est la couleur, il faut le savoir, qui est la plus utilisée par tous les peuples de par le monde pour les costumes de fête traditionnels. En Inde, par exemple, le père offre à sa fille le sari de sang qui la signale comme épouse. Et les femmes mariées ont sur le front, vous savez, ce bindi, la petite tache qu'on voit sur le front, qui est un mélange d'ocre rouge et de bois de santal. Il teint aussi la raie des cheveux et la plante des pieds. Et en Chine, tous les mariages sont rouge, rouge, rouge. La mode, on l'a vu, on en a vu tous, est venue chez nous, jusqu'à nous. Et c'est parce que c'est signe de joie, de réjouissance. Alors, les vêtements, les papiers cadeaux, les véhicules, encre, tout est rouge en Chine. On peut évoquer cette fête des douceurs parce que c'est très sympathique. Les jeunes filles offrent à leurs prétendants un foulard. S'il renferme deux baguettes rouges, c'est qu'elle veut en faire son époux. Une baguette rouge, seulement un ami. Et puis alors un piment rouge, pas de chance, rien du tout. Voilà, alors ce rouge sang, c'est le signe de la circulation du sang intrinsèque à la vie, il est capable de nous protéger, c'est le signe de la protection. On lui attribue des vertus prophylactiques, il purifie, il sanctifie. Il est le signe de la force, de l'énergie, de la rédemption. Voilà pourquoi la croix, il y a la croix rouge. En Italie, les croix des pharmacies sont rouges. Et puis on a le mercurochrome. On peut évoquer, par exemple, la médecine antique et médiévale, par la suite, qui applique le principe de la magie imitative. C'est très beau, ça. On utilise un remède rouge contre les symptômes rouges. C'est tout simple, hein, contre les boutons et les pertes de sang. Par exemple, Orum se protège de la rougeole avec des vêtements rouges. Et elle presse une étoffe rouge sur une plaie qui saigne. Les Phéniciens, eux, saupoudrent les plaies de sanguine, vous savez, ce petit bâton rouge dont on se sert pour faire des dessins.
RCF Charente-Maritime, un programme aux couleurs de la vie.
Alors pour nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, je rappelle que nous sommes avec Béatrice Vial-Collet. Alors chez nous aussi, le géranium Herba Robert. Herba Robert d'ailleurs, ça évoque le rouge, Robert Rubert en latin, est rouge de la tête aux pieds. Et c'est aussi un anti-hémorragique connu. Et en témoignent les noms qu'il porte, Cloudet dans le canton de Vaud, ce qui veut dire qu'il ferme les coupures des doigts, Pichesang, Blouquefroud, l'herbe au sang en Allemagne.
Oui, oui, oui. Effectivement, ce rouge, là, dont on parle, qui protège, est très positif. Et ça explique sans doute le succès qu'il remporte au Japon, puisque au Japon, c'est la couleur la plus appréciée entre toutes les couleurs. Elle est portée presque exclusivement par les femmes. C'est un symbole de sincérité, de bonheur. On colore le riz en rouge pour souhaiter du bonheur à quelqu'un en signe de bienvenue et se prémunir des dangers de la maladie. Les circonscrits japonais portent une ceinture rouge en signe de fidélité à leur patrie. Et les bédouins, quant à eux, marquent les bêtes rouges, les bêtes de rouge, les bêtes de leur troupeau, bien sûr pour les identifier, mais aussi, et ça c'est trop drôle, c'est très malin, pour tenir les mauvais esprits à distance en faisant croire qu'elles sont blessées. Alors ce rouge qui protège, bien sûr, ce rouge sang évoque la fécondité, l'arrivée à la maturité sexuelle donne lieu, et ce dans beaucoup de cérémonies, notamment en Afrique, à une initiation où le rouge souligne la force vitale et la pérennité de l'activité biologique. Les jeunes hommes et les femmes, on s'entenduit. On peut parler, par exemple, du Congo, où les jeunes filles nubiles sont isolées pendant 3 mois, c'est long, 3 mois, la tête rasée, le corps enduit d'une poudre rouge. Et en Zambie, alors là, ce sont les jeunes garçons dont le ventre et le front sont rougis d'ocre et qui assistent au rite de nubilité. Une rivière rouge connote le danger, le sang qui vient d'être perdu et l'union des sexes maintenant permise. Les jeunes filles reçoivent à la fin un pouce enduit d'ocre rouge qui symbolise l'accès à la période d'enfantement. En Inde, il faut parler aussi de l'Inde, pour la fête du printemps, les hindous s'aspergent d'une eau fertilisante, colorée d'ocre rouge et de curcuma. Elle symbolise le sang qui apporte la vie et le désir d'amour. Elle se substitue, Dieu soit loué, au sang des sacrifices que réclamaient les dieux autrefois. Et aujourd'hui, plus simplement, on offre à un arbre des fleurs rouges qui symbolisent le dieu de l'amour charnel, Kama. De même, dans l'Eucharistie, le sang du Christ est symbolisé par le vin. Alors ce signe du rouge clair protecteur est aussi signe de puissance et de générosité, comme le rouge vif du feu. C'est celui de la Pentecôte et de l'Esprit Saint, à la fois lumière et souffle qui réchauffe, qui brille, éclaire, comme l'astre solaire, il purifie, d'où la couleur rouge des pompiers et leurs voitures, les bornes incendies, la justice et le bourreau.
Par contre, alors en liturgie, le rouge n'est utilisé que le Vendredi Saint, pour l'office de la Passion du Christ, et 2 jours après, pour Pâques, revient le blanc, symbole de la résurrection.
Oui, oui, on voit là des modes d'emploi très stricts. Hein. Alors, c'est vrai que le rouge, c'est la couleur action. Elle est forcément aussi la couleur de la matière et du matérialisme. On est dans le concret. Ce sont les rouges politiques, le communisme, et donc signe qui récompense l'action. Le rouge est une marque honorifique en Occident. Le tapis rouge, le fameux tapis rouge pour accueillir une personnalité. La Légion d'honneur, le ruban rouge lors des inaugurations. Voilà, tout ça est très sympathique, mais le rouge n'est pas uniquement sympathique parce que quand il sort du corps, alors il devient le sang répandu. Et là, c'est le rouge sombre qui est carmin, le mauvais rouge, le côté féminin. C'est la mort dans le sang répandu qui est nocturne, centripète. Le lien qui unit la mort au sang de la vie existe dans les rites funéraires depuis toujours. L'homme préhistorique l'utilisait déjà, peut-être pour retarder la putréfaction des cadavres ou favoriser le retour de l'âme dans son enveloppe charnelle. Aujourd'hui encore, on place en Chine une boule de papier rouge entre les lèvres du défunt pour l'assister dans son voyage. C'est la couleur du signal aussi. Il alerte. C'est la marque rouge des cigares, des tabacs, les prix en baisse dans les magasins pour être sûr qu'on ne les rate pas, les corrections des copies. Et puis, donc c'est la couleur du danger, de l'interdiction. Il retient. Il incite à la vigilance. Ce sont les feux de circulation, la signalisation routière, le feu interdisant l'entrée du bloc opératoire, attention, attention, la bande sur les médicaments, attention toujours, les clignotants d'alerte, être dans le rouge, la zone rouge, le drapeau rouge. Et par extension, ce sont aussi des contraintes ou des interdits pour ceux qui portent ce rouge sombre. C'est là les bourreaux, par exemple, qui sont habillés en rouge sombre et qui vivaient au banc de la société, comme on le sait. Alors sa signification de mort explique aussi l'interdit qui frappe les femmes en période de menstruation, parce que le sang qu'elles rejettent est impur, puisqu'il passe de la nuit utérine au jour, il inverse sa symbolique. Et effectivement, en Chine, à l'époque Han, la tache rouge au cinabre sur le front des femmes du harem indique ses pratiques à l'empereur qu'elle est impure et dangereuse. Ce rouge sombre carmin est aussi signe de violence et de péché. Vous voyez, là, c'est beaucoup moins drôle. C'est le rouge de la chair impure, des crimes de sang, celui de la colère, de la souillure. Et exemple, les artistes tibétains expriment cette colère divine par le rouge. Ils figurent les dieux colériques avec une chevelure rouge. Et pour être encore plus grave, c'est la couleur de la guerre. Le rouge est traditionnellement l'enjeu de la bataille entre ciel et enfer. Et jusqu'au XIXe siècle, beaucoup d'uniformes militaires sont rouges, on l'a vu, avec la garance. Les Étrusques, eux, se couvraient, dit-on, du sang des vaincus. Et les Éthiopiens partaient en guerre enduits de cinabre pour favoriser leur ardeur au combat et, bien sûr, effrayer leur adversaire. On veut bien croire, on les imagine effrayants. Les chasseurs, pour les peuples chasseurs, là, il faut nuancer, parce que ce rouge, couleur de sang, est le moyen pour eux de faire communiquer le monde des humains, le leur, avec celui des animaux, qu'ils respectent. Avant la chasse, elle conforte les chances de succès et renforce l'énergie vitale. Au Canada, les tatouages de bravoure de couleur rouge du jeune chasseur attestent de ses facultés de résistance à la douleur. Alors, voilà, là, on est dans le sang, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la terre rouge sur laquelle on vit, parce que le fer abonde dans la terre et lui donne sa couleur rouge quand il s'oxyde au contact de l'oxygène. On peut admirer les palettes infinies de rouge en Espagne et plus loin dans le Grand Canyon, les déserts d'Australie, les déserts d'Afrique et plus près chez nous, tout simplement dans le Rouergue, où la terre est rouge avec certains villages comme Collonges-la-Rouge. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille, c'est magnifique. Beaucoup de cultures perçoivent ce rouge comme le sang coagulé de la terre, ce qui est vraiment une très très belle image. Et on pourrait s'émouvoir à penser que l'histoire se répète symboliquement. Le fer a coloré la terre, et selon la Bible, c'est avec cette terre que l'homme a été créé. Et puis le fer colore à son tour le sang de l'homme. Le rouge, en effet, a un côté sacré et secret. Il parle du mystère de la vie. Comme dans la nature, parce que cette terre rouge, quelquefois, elle n'est que sous-jacente à la verdeur du sol. C'est la couleur de la connaissance ésotérique. Les sages du tarot, si vous les voyez dans le tarot, l'ermite, la papesse, l'impératrice dissimulent sous leur manteau une robe rouge. Alors, plus sympathique, c'est la couleur de l'amour, tout le monde le sait, de l'érotisme, de la libido, du cœur, de la passion, et la passion avec ses dangers. Les jeunes Indiens d'Amérique s'ornent de peintures rouges pour stimuler et éveiller le désir, c'est une idée. En Nouvelle-Guinée, les hommes font de même pour séduire les femmes. Ils se peignent le corps en rouge parce qu'ils savent que les fleurs rouges attirent les oiseaux.
Et le rouge de la grenade, ce bel arbre qui fleurit en Charente-Maritime d'ailleurs, est le symbole de l'amour charnel dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques. « Que tu es belle, ma compagne, comme un ruban d'écarlate sont tes lèvres. » Comme une tranche de grenade est ta tempe.
C'est très joli, oui. Effectivement, en Chine, le rouge est perçu comme vivifiant parce qu'il évoque la grenade. Ces nombreuses graines de la grenade, pour eux, symbolisent une riche descendance. Alors, on peut dire qu'il apparaît que dans le rouge s'opposent deux pulsions humaines. L'action et la passion, la libération et l'oppression. Et ça explique son attrait et son danger, sa puissance et son pouvoir magique. Mais si le rouge menace jusque dans la mort, il porte aussi l'espoir de la renaissance parce qu'il est intimement lié aux forces de la vie. Et la fin de la vie peut être l'occasion d'un retour au rouge de la fécondité. Si on prend l'exemple du Nigeria, la première des chambres dans lesquelles le défunt est exposé est tendue d'un tissu rouge, semblable à celui que porte la femme qui vient d'accoucher, qui signifie que la mort est une naissance. Du reste, les orthodoxes aussi disent « il est né au ciel », c'est très joli ça. Cette vision des choses peut peut-être expliquer qu'en Indonésie, en Afrique, ailleurs, les funérailles parfois sont souvent festives.
En conclusion, Béatrice, une petite note positive pour vivre en rouge ?
On pourrait dire que le rouge est la couleur la plus répandue avec la terre rougie par l'oxyde de fer et pourtant la plus chère, ambivalente parce qu'elle est à la fois la vie et la mort, le féminin et le masculin, la plus attirante et la plus repoussante, la plus fascinante, enfin je pourrais continuer longtemps comme ça. Pourtant, pour terminer sur une note d'humour, l'homme est passé à côté de la catastrophe. Nous sommes les seuls parmi les mammifères, avec les singes, à la voir. Vous savez que la cape du toréador n'est rouge que pour exciter le spectateur, parce que le taureau ne voit pas le rouge, comme le rat ou le lapin. Il vit dans un monde en noir et blanc. Et dans l'arène, c'est le mouvement de la cape et non sa couleur qui l'excite. Les abeilles et les fourmis ont un spectre visuel décalé par rapport au nôtre, c'est-à-dire que leur œil a des cônes pour le bleu, le vert, l'ultraviolet, mais aucun sensible au rouge. Le rouge n'existe que pour nous. Et les oiseaux qui sont encore plus chanceux. On en parlera peut-être une autre fois. Alors, soyons conscients de notre chance.